Bonjour, shalom, assalam alaikum. Jeudi 30 novembre 2023. Et oui, nous bouclons aujourd'hui le 11e mois de l'année 2023 et demain, nous entamons la toute dernière ligne droite pour boucler l'année 2023 et entrer dans la nouvelle année 2024. C'est l'heure des bilans, n'est-ce pas? Et à ce niveau, justement, le sage nous apprend que les gens qui nous réclament leur argent ne sont pas mauvais. C'est nous qui devons payer nos dettes. Encore une fois, les gens qui nous réclament leur argent, même avec insistance, ne sont pas mauvais. C'est nous qui devons payer nos dettes. Donc, à cette émission aujourd'hui du jeudi 30 novembre 2023, nous allons, actualité oblige, revenir sur les prochaines élections régionales et législatives qui se profilent à l'horizon, les analyses, les préoccupations, les assurances des uns des autres. Et dans cette ambiance également, nous allons revisiter certaines constantes sécuritaires dans notre pays. Et puis, nous continuons avec un retour sur l'audit de la gestion des fonds COVID-19. Et nous allons terminer par l'olympisme quand Lomé, notre capitale, va devenir la capitale sous-régionale de Jeux olympiques de la zone 3 ACNOA, Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Voilà le menu du jour avec trois confrères déjà installés. Juste le temps que je vous dise que cette émission est conduite, réalisée et mise en onde par le duo Victor Gbé Kokou Michel Tomega et Jérôd Kodjo Akucha, avec comme confrère autour de la table Kossi Elom Ticho Gbé de la Nouvelle Tribune. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous les confrères en studio. Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Et j'ai une pensée ce matin à nos deux confrères qui sont toujours en détention du côté de la prison civile de Lomé. Beaucoup de courage à eux. Et j'aimerais profiter aussi de l'occasion pour interpeller la mairie Golf 4 sur les gros trous qu'il y a sur la route de Hanoukop en venant à Canal FM ici. Tout à l'heure, en venant, j'ai vu une voiture tomber dans un trou. Ça a dû bloquer la voie totalement parce que c'était dans un sens. Donc, les gens étaient obligés de venir soulever la voiture. Et donc, ces trous traînent là-bas depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il faut véritablement que la mairie Golf 4 puisse régler ce problème.
La rue qui passe devant notre studio, qui va juste à Badago, n'est-ce pas?
Effectivement.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de trous dans cette rue et c'est pas fini. Si vous circulez sur nombre de rues de la commune Golf 4, vous constaterez que les avaloirs sont enlevés. Même en plein goudron, même en plein grand marché, sur pratiquement toutes les voies, même bitumées, les avaloirs sont enlevés. Et rien n'est fait pour baliser, pour signaler. Si bien que ce qui est arrivé à ce conducteur peut arriver à tout le monde.
Tout le monde, oui.
Encore une fois, nous demandons à la commune Golf 4 ou bien à l'autorité afférente de régler ces problèmes-là de trous qui se sont creusés comme ça sur nos rues goudronnées de la capitale. Oulo, Jean Le Grand Polorini de Canal D, bonjour.
Sas, bonjour. Bonjour au confrère studio. Bonjour également à ceux qui nous écoutent sur Canal FM. Je vais également embrayer avec une pensée pour toute la population de Kégué qui a véritablement des problèmes électriques. Vous savez, c'est inadmissible que des citoyens payent pour avoir un service au niveau de la CET et qu'à partir de 19h jusqu'à 23h, les ampoules ne font que clignoter. C'est vraiment inadmissible que vous soyez à la maison et votre ampoule, parce qu'il y a une baisse de tension, et chaque soir, de 18h à 23h, c'est comme ça dans tous les foyers à Kégué.
C'est au quartier Kégué.
Véritablement, que la société fasse ce qu'il faut faire. S'il faut mettre un nouveau transfert parce que la population a augmenté, qu'on le fasse. Parce que c'est un service que nous payons, nous ne commandons rien. Et quand on paye, il faut qu'on ait un service de qualité.
Encore une fois, celui qui réclame son argent avec insistance, il n'est pas mauvais. C'est nous qui devons payer nos dettes et tout le monde est quitte. Ambroise Yao Kondio, bonjour.
Oui, ça c'est bonjour. Bonjour les confrères ici présents. Une pensée spéciale à Loïc et à Nani. Mais mon coup de gueule ce matin, ou soit un coup de cœur, je ne sais pas. Il m'est venu à l'idée d'envoyer ce message à tous les Togolais. De donner quelque chose à ceux qui sont pauvres. À ceux qui en ont besoin. La solidarité. dans les finances. Je crois que c'est le moment. Parce qu'il y a une élite qui est là, en haut. Ils sont minoritaires. Il n'y a même pas de classe moyenne. Donc, il y a une classe intermédiaire. Ensuite, il y a la basse classe qui en souffre énormément. Ils sont plus de, seront plus de 90%, je crois. Et si tu as 1000 francs, 2000 francs, ne serait-ce quelque chose, donne à quelqu'un. Ceux-là qui, en plus, même si c'est 5000 francs, ça y est, il faut arriver quand on décrète le mois de décembre, mois du donné. C'est-à-dire que la Bible nous a appris, celui qui donne le plus, il reçoit plus de bénédictions. Mm-hmm. Donner. Donner seulement. C'est-à-dire que les gens ont des problèmes dans ce pays. Et certains ont creusé des trous à travers des dettes au point que. Merci. Et ils ne s'en sortent pas.
Merci Ambroise.
Donc donner 1000 francs, 2000, ça ne coûte rien.
Demain déjà, nous allons entrer en décembre pour les chrétiens. Hein, va nous conduire au 25 décembre, hein, l'avènement de Jésus-Christ. Le même Jésus qui nous a enseigné de son vivant sur terre que celui qui prête à un, celui qui donne à un pauvre, en fait, il prête à Dieu. Et Dieu paie toujours ses dettes.
Absolument.
Et pour finir, pour revenir terminer avec la commune Golf 4 que nous aimons vraiment décidément ce matin, il y a un phénomène également. Ceux qui balaient les rues, notamment au niveau de, du CHU Lomé Tokoin. Mm-hmm. Alors le conseil fait que on balaie les rues. Et puis, ils déversent tous leurs déchets sur les voies latérales. Les gens balaient devant leur maison. Et maintenant, quand les gens viennent balayer la voie goudronnée, ils vont déverser leurs odeurs sur les voies latérales à côté.
Il faut la police environnementale.
Ce n'est pas bien. Surtout que la rue qui nous interpelle ce matin, c'est la rue qui passe devant l'aumônerie catholique. Mm-hmm. Il y a l'aumônerie catholique. Juste en face, il y a l'hôpital. Et on balaie la rue, on va déverser les déchets devant la maison de Dieu et devant la maison des malades. Est-ce que c'est bon?
Bon, par rapport à ça, je crois quand même que le problème de la gestion des déchets est transversal à toutes les communes du Grand Lomé, c'est-à-dire toutes les 13 communes. Mais par exemple, dans le cas de Golf 4, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est très intéressant dans la mesure où c'est un problème qui attire notre attention. Vous savez qu'aujourd'hui s'ouvre la COP 28. Du côté de Dubaï. Et on ne peut plus, parce que le problème de l'environnement, c'est l'un des défis prioritaires de toutes les communes. Et donc, je voudrais associer ma voix à la tienne pour appeler justement les autorités municipales de la commune Golf 4 pour qu'ils règlent d'urgence les problèmes d'environnement ou d'assainissement dans la commune. Mais les gens qui balayent et qui déversent les ordures sur les voies latérales, ce n'est pas du tout intéressant. Il faut un peu plus de civisme. Ambroise Mondio est ici, c'est un spécialiste en environnement. Il a une ONG qui lutte contre la pollution et puis tout ce qu'il y a comme déforestation et la protection de l'environnement. Mais il faut que les gens prennent conscience du fait que le fait excusez la tautologie, de déverser des ordures sur les voies latérales, ça constitue également une source de pollution de maladies.
Merci. Tu m'offres une occasion pour envoyer une pique à Ambroise. Ambroise, je l'ai découvert dans la presse, dans la thématique environnement.
Oui.
Maintenant, je le trouve omniprésent sur les questions sociopolitiques. Je le sens de moins en moins sur les questions d'environnement. Non, alors non. Que c'est aujourd'hui que s'ouvre la COP, Ambroise.
Non, oui, en fait, on était en activité, au moins deux activités. On a sensibilisé les gens, je crois que c'est en mars, pour le reboisement de la ville de Lomé. Reboisement de toutes les rois qui ont été réhabilités. Mm-hmm. Quand tu vas à Décon, c'est la désolation. Ceux qui quittent le Festival des Glaces pour arriver juste à la BTCI.
Aucun arbre.
Issu. Donc imaginez les pauvres qui doivent rejoindre depuis Nikonakwe pour aller au port de Lomé. Donc il faut, même la rue d'Aïdo Gomé, la rue de Ségué, il n'y a pas d'arbre. Donc l'université de Lomé, nous-mêmes on a déjà fait une conférence de presse, et heureusement, par coïncidence, l'université de Lomé, à travers le professeur Kwaku, a organisé un atelier, père à son âme, le préfet à Tabou, il était l'un des coordinateurs de cet atelier-là, pour organiser un reboisement général de toute la ville de Lomé. Et si ça réussit, On étale ça dans les autres villes, oui, de l'intérieur. Oui. Parce que quand il y a des arbres, je vous dis que les gens se tuent à cause de l'ombre ailleurs. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Les gens se tuent. Parce que quand vous savez dans la ville de Lomé, tous les quartiers qui ont des arbres, les gens cherchent même à créer un bar sous un arbre. Mm-hmm. Parce que ça suffoque. Même les oiseaux, il faut trouver un abri aux oiseaux. On les a, parce que c'est la biodiversité.
Donc, Ambrose, donc tu me donnes raison à moi et à Elom. Oui. Nous voudrions te sentir davantage sur
des questions environnementales. Oui, oui, c'est parce qu'il y a, c'est une question de moyens. Il y en a qui ont des moyens, mais
nous parlons de toi, Ambrose.
Oui, c'est ce que je fais. Moi, je veux terminer par rapport au Golf 7. C'est-à-dire que je ne sais pas ceux qui balaient la route là. Ils sont allés à Chine ou je ne sais même pas. C'est-à-dire que il y a eu pluie et le sable, tout est sable sur la voie. Habituellement, ils ont l'habitude de balayer, mais ces trois dernières semaines, voire un mois, il n'y a aucune balayeuse, aucun balayeur sur la voie. Et ça s'entasse. Il n'y a pas de trottoir sur la voie. Et les gens, les élèves qui quittent Ségué pour arriver à la maison, ils sont obligés de passer par le trottoir. Les motos qui doivent être dans leurs allées à cause du sable, ils sont aussi sur la chaussée, en plein chaussée, et les véhicules sont obligés de les tamponner. Donc, sincèrement, d'abord, la route n'est pas grande. Il faut que le Golf 7 fasse un effort de continuer à travers les balayeurs et les balayeuses de rendre disponible la voie à tout usager.
Merci. Les maires des communes Golf 4 et Golf 7 ont le bonheur ou le malheur d'avoir plein de journalistes dans leurs essais territoriaux qu'ils souffrent que nous attirions autant que besoin leur attention sur la ville de Lomé que nous souhaitons vraiment belle, où ils fassent vraiment bien vivre.
Évidemment, ça, les mairies en doivent être interpellées parce que le sujet que tu relèves, de même que celui dont Ambroise parle, je crois que les mairies ont rétrocédé les balayages de ces rues à certaines sociétés.
Ils ont sous-traité.
Qui font le travail. Je crois que quand il y a un problème comme ça, que les mairies interpellent ces sociétés qui ont un cahier de charges. Et quand le travail n'est pas bien fait, qu'on les rappelle à l'ordre. Mais si cela va continuer, qu'on trouve d'autres sociétés qui pourront faire le travail en bonne et due forme pour que les citoyens ne souffrent pas, parce que c'est un travail qui est payé. Et quand vous êtes payé, il faut faire un bon travail. Mais une fois que le citoyen n'est pas satisfait du travail, je crois qu'il va falloir qu'on trouve d'autres sociétés.
Merci. Après cette longue salutation, introduction qui dure 12 minutes, nous pouvons maintenant aborder le premier sujet inscrit, à savoir les prochaines élections régionales et législatives. C'est le sujet politique numéro 1 actuellement. Revue de presse avec Canal D qui écrit la page 3, élections législatives et régionales vers le bout du tunnel. C'est une interrogation. Ça veut dire que tu ne peux pas encore parler à l'affirmative, Jean Legrand.
Oui, ça, on ne peut pas parler à l'affirmative parce que rappelez-vous qu'en 2022, le chef de l'État avait annoncé que les élections régionales auront lieu en 2023. Et on attendait, beaucoup se posaient la question de savoir à quel moment auront lieu ces élections régionales. D'aucuns ont supputé disant qu'elles seront couplées avec les législatives qui devraient se tenir normalement avant la fin décembre. Et ce n'est que la semaine passée, avec le Conseil des ministres du 25 novembre, que nous avons appris que le chef de l'État a demandé que les élections aient lieu avant la fin du premier trimestre 2024. Et ce qui veut dire encore une promesse, mais ce n'est pas encore l'agenda républicain. Vous voyez, quand nous fonctionnons un peu sur la base des promesses, nous n'avons aucune garantie véritablement que cette élection aura lieu avant la fin du premier trimestre. C'est vrai que le chef de l'État a aujourd'hui tapé sur la table, mais moi je dis, quand c'est comme ça, on dirait qu'il y a un problème, parce qu'il ne revient pas au chef de l'État aujourd'hui de dire qu'on veut avoir une élection d'ici tant temps. Nous avons des textes, nous avons des institutions qui travaillent. Je crois que quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème au niveau de nos institutions qui fait qu'aujourd'hui, ce soit le chef de l'État qui fixe une date butoir. Vous imaginez Macron se lever et nous dit bon, nous aurons les élections d'ici tant, d'ici telle date. Non, c'est
alors que ça y est, pas d'élections anticipées.
Pas du tout. Je crois qu'il y a véritablement un problème. Et il faut que nos institutions fassent leur travail. On ne peut pas, je veux dire, avoir une gouvernance par les humeurs. C'est pas normal. La CENI a commencé un travail il y a quelques mois à pas de charge. On voyait que les gens se précipitaient. Non, on courait. On est passé par le recensement électoral. Des gens n'ont pas pu se faire recenser. On a fait fi. Comme quoi, on avait un agenda qu'on voulait atteindre. Mais finalement, à un moment donné, il y a eu un blackout. Silence. Personne ne sait plus ce qui se passe. Et un beau jour, voilà, on nous dit que on ne peut pas avoir les élections avant cette fin d'année. C'est parti pour l'année prochaine, le premier trimestre. C'est autant de questions qui se posent. Et aujourd'hui, vous avez l'opposition qui sort et qui relève le fait qu'aujourd'hui, les députés sont hors mandat.
On va y arriver. Alors, est-ce que nous allons vers le bout du tunnel pour les élections? Méga Info hein, nous rappelle que les législatives et régionales se tiendront avant avril 2024, s'appuyant également sur le communiqué sorti du dernier Conseil des ministres tenu le 25 novembre dernier. Le dialogue, hein, lui est aussi à la page 4, nous rappelle que le gouvernement a invité la CENI, Commission électorale nationale indépendante, à proposer un chronogramme pour les dites élections. Et là encore, si, voilà l'agenda républicain, le calendrier républicain, l'Assemblée actuelle est issue d'une élection que nous avons tenue en 2018. Et les résultats définitifs avaient été proclamés le 31 décembre 2018. Ça veut dire que le mandat de l'Assemblée en cours prend fin le 31 décembre 2023. Mais le constat est fait que ce n'est qu'au premier trimestre 2024, au plus tôt, que nous tiendrions, je parle là au conditionnel, oui, ces élections.
Oui, je crois qu'il y a, quand même un retard qui a été accusé dans ce processus, qui est quand même curieux. Jusqu'à présent, on attend toujours le chronogramme de la CENI, le chronogramme électoral. On ne l'a pas encore. On ne sait pas quand est-ce qu'on démarre la campagne. On ne sait pas quand est-ce que les gens... Enfin, je ne vais pas mettre la charrue avant la bœuf. Il faut d'abord déposer des candidatures avant de battre campagne. Donc, on ne sait pas exactement, parce que la question du fichier électoral, je pense, c'est réglé. Bon, maintenant, après, il va falloir qu'on puisse faire un chronogramme en bonne et due forme pour que les gens sachent jusqu'à au plus tard quelle date ils vont aux élections. Mais jusqu'à présent, on est là. Et ça crée en réalité un autre problème, parce qu'il ne faut pas que véritablement toutes les fois ou bien régulièrement, on se retrouve face à ce calendrier où on dit que bon, les gens sont là, et voilà, ils sont en fin de mandat, mais bon, on va organiser les élections dans les prochains mois. Il faut tout faire pour rester dans les délais, parce que quoi qu'on dise, il faut quand même respecter l'agenda républicain, le chronogramme électoral. Si la personne ou si les institutions arrivent à terme et que les mandats ne sont pas renouvelés, bon, moi je crois quand même que ça se passe dans beaucoup d'institutions. Quand vous prenez la HAC aujourd'hui, voilà, c'est des personnalités qui sont là, mais qui, dont le mandat a expiré depuis, bon, on ne dit rien. Il y a d'autres institutions, la CNDH, la Cour constitutionnelle, il y a d'autres institutions. Ah, ok, voilà, on ajoute à Plusia.
Non, la donc, Plusia, c'est seulement la tête qu'on a renouvelée, tout le corps demeure ancien.
Voilà. Il y a beaucoup d'institutions qui sont là, qui attendent les élections. Bon, et puis après, on va ajouter maintenant encore l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne sait pas si, véritablement, d'ici mars 2024, comme on le dit là, le chronogramme sortira pour qu'on aille aux élections. Parce que, bon, ça, c'est l'agenda. C'est ce que souhaite le Conseil des ministres. Parce que le Conseil des ministres a exhorté pour qu'on puisse, la CENI, pour qu'on puisse aller aux élections au plus tard mars 2024. Ça voudra dire que, bon, ça, c'est le souhait. Bon, maintenant, il se peut que, bon, dans le parcours, il y a encore d'autres choses à revoir, etc. Mais donc, l'Assemblée nationale aussi va s'ajouter à la longue liste des institutions qui attendent toujours les élections. Je crois quand même qu'à un moment donné, par rapport au caractère fort, ou par rapport à la robustesse et à la modernité de nos institutions de la République, il faut véritablement que les élections se tiennent à date.
Merci, la présidente de la République. Et avec l'Assemblée nationale, d'ici le 31 décembre, toutes nos institutions républicaines sont hors mandat, oui, sauf la Cour constitutionnelle. À ce niveau, le problème, c'est que la Cour constitutionnelle est incomplète,
oui,
et surtout avec le décès de son président, Abdou Assouma, depuis mai 2023. Donc l'Assemblée, plutôt la Cour constitutionnelle, non seulement elle est incomplète, mais elle n'a même pas de président sur le reste des membres qui sont là. Alors Ambroise, c'est depuis lundi soir que le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du samedi 25 a été publié. Et on peut s'étonner à juste que de lundi à aujourd'hui, la CENI ne commence pas déjà par bouger pour nous proposer le fameux chronogramme, alors que de maintenant au premier trimestre 2024, ce n'est que 4 mois.
Oui, on a comme l'impression que la CENI attend des coups de fil pour pouvoir travailler. C'est la preuve dont tu viens de faire mention, tout au moins le Conseil des ministres a donné des indications sur la période à laquelle les élections pouvaient se dérouler. Et à partir du 1er janvier, toutes ces institutions rentrent dans l'illégalité. D'abord l'Assemblée nationale qui rentre dans l'illégalité, parce que si l'Assemblée n'est pas dissoute. Quand on s'accroche à une fameuse loi ou à une disposition qui dit que l'Assemblée, l'actuelle Assemblée ne vide les planchers que lorsque la nouvelle législature entre en fonction. Secondo, la CENI même est dans l'illégalité. Le mandat de ceux qui sont là est passé depuis.
C'est la DMP qui a relevé que le mandat de la CENI a expiré depuis mars 2023.
Et les composantes de la CENI ne reflètent pas les réalités des acteurs politiques.
Bon, là, ensuite, la CENI est composée suivant le code électoral. Mm. Bon, s'il faut revoir la composition, donc il faut retourner.
C'est là où je voudrais en venir. Je crois qu'il faut revoir le code électoral. C'est les exigences donc de la DMP. Revoir le découpage électoral. Parce qu'on ne peut pas avoir 16 000 ou 20 000 citoyens qui votent dans la partie septentrionale pour un député et que ce soit 180 000 qui soient à Lomé ici qui votent. Il n'y a pas Togolais plus important que d'autres. Même à New York ou en Californie, on vote par le quotient est lié par rapport au nombre de suffrages et au nombre de députés. Et là, ici, on n'a pas ça. C'est une discrimination, c'est une injustice. Il faut corriger cela. Tertio, je crois que il y a beau à faire dans la communication même de la CENI. Parce que il y a cette sorte de dysfonctionnement dont on a relevé certains la dernière fois, on amène les auditeurs de la francophonie, on n'informe personne, et tu l'as si bien dit, tout fonctionne en catimini, et patatras, c'est un matin, on nous dit que, ok, on a fait un audit. Donc, il y a tellement de dysfonctionnements et de l'illégalité dans lequel nous risquons de rentrer à partir de fin décembre, 1er janvier, et si le chef de l'État qui annonce à la CENI de trouver une date après plusieurs mois de réclamation de la part et de l'opposition et des médias et de la société civile, je crois fondamentalement qu'il y a un rôle important à faire au niveau de toutes les institutions, code électoral qui doit revoir tout ce que tu as eu à relever tout à l'heure, et la composition même de la CENI, et ensuite et la légalité, parler de la légalité de l'Assemblée après le 1er janvier.
À propos d'élections à tenir à Dentéchu, l'agenda, le calendrier républicain, le confrère, l'intelligent que je viens juste d'avoir, nous rappelle ce qui s'est passé au Libéria avec cet article. Libéria, George Weah concède sa défaite, une leçon d'alternance démocratique aux dirigeants africains. Voilà un pays sorti de guerre il n'y a pas longtemps, mais qui organise l'élection présidentielle à date échue, élection transparente. Le président sortant concède sa défaite et vient de céder la place aux nouveaux venus. Alors, pour revenir à l'annonce des élections législatives et régionales, l'intelligence nous rappelle encore que ces élections régionales et législatives au premier trimestre 2024, selon le gouvernement, pendant que le confrère, le tonnerre, lui aussi rappelle que le dernier virage est amorcé pour ces élections. Mais Oulo, tu annonçais un problème qui peut se poser selon les interprétations des officines politiques, mais je peux t'informer que ça a déjà commencé. Parce que la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple, a sorti ce 30 novembre un communiqué de presse. Communiqué au terme duquel la DMP rappelle que les élections législatives devraient se tenir au plus tard ce 30 novembre 2023, conformément à ce que l'article 52 de la Constitution dispose que les élections législatives doivent se tenir 30 jours avant la fin du mandat de l'Assemblée en cours. C'est pourquoi la DMP trouve que c'est au plus tard ce jour qu'on devrait tenir ces élections législatives. Si cela n'est fait, la DMP rappelle que l'Assemblée, présidée par Mme Tchégan, arrive au terme de son mandat au soir du 31 décembre, et pour la DMP, personne ne pourrait s'arroger le droit de proroger unilatéralement le mandat de l'Assemblée en cours. Si cela devrait se faire, donc il faudrait retourner à des assises politiques pour définir des termes dans lesquels on pourra gérer la question législative jusqu'aux prochaines élections législatives. Là, c'est la DMP qui vient de sortir ce communiqué peut-être que dans les jours à venir, d'autres officines politiques pourraient également relancer ce débat.
Oui, ça, vous savez, moi je dis tout ce qu'on fait, on doit s'appuyer sur les textes, mais également les élus actuels également peuvent se baser sur une portion du texte qui dit que les députés restent en fonction tant qu'il n'y a pas encore leur successeur. Et ils pourront dire qu'ils ont raison. Vous voyez ici, chacun tire la balle de son côté. Et vraiment, c'est un peu regrettable. Je ne sais pas pourquoi il faut qu'on en arrive là. Qu'est-ce qui a empêché qu'on ait les élections à temps? Est-ce qu'il est bizarre, on ne communique pas, on ne nous dit pas véritablement quel est le problème? S'il y a un problème et dont nous tous sommes, tout le monde, toutes les forces politiques sont conscientes que à cause de tel X, Y, l'élection ne peut pas avoir lieu à temps. On s'entend tous et puis bon, il n'y aura pas de souci. Mais quand il y a un vide de communication autour, mais c'est quand moi j'ai lu le Conseil des ministres, vous avez lu en filigrane vers la fin du Conseil, où le chef de l'État demande à ce que les conditions sécuritaires soient mises en place au niveau du Nord Togo pour que et les candidats et les électeurs puissent vaquer librement pour aller aux élections. C'est ici également pour dire que on a comme l'impression que la situation au Nord en est pour quelque chose, même si on ne l'a pas dit ouvertement, c'est quelque chose qu'on relève. Mais ce qui est souhaitable, c'est qu'on communique véritablement, qu'on nous dise quel est le problème. Parce que comme les uns et les autres l'ont relevé, cette CENI véritablement ne communique pas. On ne sait pas, un jour on se lève, on vous dit un jour, on vous dit quelque chose, le lendemain on vous dit autre chose. Et c'est comme si on cuisine les choses quelque part et après on vous laissait. Je crois que quand les choses vont de cette manière, ce n'est pas de nature à rendre tout le monde confiant. Et moi, je dis qu'on n'est pas loin de retomber encore dans le cycle réclamation, élection, contestation, si rien n'est fait à temps pour que toutes les parties puissent trouver un terrain d'entente.
On verra ce que les officines politiques vont nous servir d'ici là. Mais élection que nous souhaitons dans les normes, avec toute la transparence, et bien également dans des conditions de sécurité optimales. Et le Togo... nous, 56 600 km² englobe les localités de San Loaga, de Saint-Cassé, et on nous serait tenu des élections sans que nos compatriotes ne soient en liberté d'aller mener campagne et d'aller voter, rentrer chez eux et dormir en paix. Or, au Conseil des ministres du samedi dernier, le gouvernement avait étudié un projet de loi portant sur l'état de siège et l'état d'urgence. Alors, le Togolais lambda peut s'étonner pourquoi le gouvernement étudie un tel texte dans ce contexte. Peut-être que, comme Jean l'a dit, c'est relativement à la situation qui prévaut au Nord. Et puis, c'est également lors de ce conseil que le gouvernement retrouve la parole sur la sécurité depuis de longs mois. Vous rappelez que depuis de longs mois, le gouvernement a décidé de s'imposer un embargo sur la situation sécuritaire. Et puis samedi dernier, et comme l'écrit Canal D à la page 4, le gouvernement lève un coin du voile sur la situation sécuritaire avec les chiffres qui ont été donnés et que le confrère nous rappelle, à savoir cette année 2023. Le terrorisme a occasionné 31 décès avec des forces militaires et des civils et également des disparus, des blessés et tout ça. Et il y a ce que nous impose le terrorisme et l'extrémisme violent, mais nous voulons rappeler également quelques constantes d'ordre habituel. Il y a quelques jours, le ministre de la Sécurité, colonel Majoulba, a sorti un communiqué pour rappeler que l'interdiction de l'usage des pétards est toujours en vigueur au Togo. Et puis, je crois qu'il y a hier, ou bien avant-hier, il sort encore un communiqué pour rappeler que nous sommes en période, d'Harmattan, d'Harmattan, et le ministre Majoulba exhorte les populations au civisme pour éviter des comportements qui pourraient engendrer des feux de végétation. Parce que l'harmattan, nous savons, peut causer par endroits des conséquences incalculables avec la propagation des feux de brousse, dégâts aussi bien humains pour les bétails et surtout pour la végétation et nos cultures. Et pour terminer, le colonel Majoulba invite tous les acteurs impliqués dans la prévention et la gestion des risques de catastrophe à une surveillance permanente en vue d'alerter en temps opportun les populations exposées. Eh bien, Ambroise, l'usage des pétards dans les périodes de fêtes, le rappel du ministre sur les comportements de prudence qu'on doit aborder pour l'Harmattan et puis la situation qui continue à peser sur nos compatriotes au nord du Togo.
Oui, d'abord sur la question des pétards. Moi, j'aurais aimé que le ministre Madjouba fasse économie de ce communiqué pour la simple raison que depuis fort longtemps, le ministre Yak, en son temps, avait toujours sorti des communiqués. Mais on a comme l'impression que c'est les communiqués qui attirent même les investisseurs, les fournisseurs et, comment vous l'appelez, les commerçantes. C'est-à-dire, c'est maintenant, il y a même
plus... Je rappelle que depuis Yark, il est interdit l'usage, la fabrication, l'importation et quoi encore ?
Des pétards
au Togo. C'est oui. Toute la chaîne qui est en principe interdite.
Sauf que, c'est ce que je dis, que à la grande surprise, tu vas avoir des pétards qui ressemblent même à des roquettes. Je ne sais pas si tu as une entendu.
Surtout chez nous là-bas.
C'est la zone là-bas. C'est des pétards missiles. comment je viens de l'appeler. Des pétards roquettes. Et quand ça sonne, les chiens sont obligés d'aboyer. Parce que ça sort de l'ordinaire. Maintenant, on salue le communiqué du ministre. Sauf que si le ministre peut accompagner ce communiqué avec des actions de surveillance dans les quartiers, je me rappelle. Très bien, c'est en 2001. On était, tu permets, on était devant le portail. J'étais avec mon petit frère et il y avait des rondes de police. Mon petit frère avait sorti l'allumette pour allumer. Ils étaient là. On avait dit que c'est, on cherchait juste à aller acheter des bougies. ça m'a rappelé ça. Juste pour dire que si la gendarmerie, la police faisait des rondes dans les quartiers, non seulement pour dissuader ceux qui utilisent les pétards, mais les voleurs aussi, parce que c'est un dossier aussi qu'on va, sur lequel on va revenir. À Kato Démé, à Kato, à Ségué, et partout, les voleurs sont là, dans les quartiers, à visage découvert, ils vous volent. Bon, revenons aux questions maintenant des feux de brousse. Vous savez, en période de saison sèche, ou en période de chaleur avec les changements climatiques aujourd'hui, et cette augmentation de chaleur qui a fait des dégâts en Occident, en France, aux États-Unis, partout.
Même chez nous ici.
Vous suffoquez, il va falloir éviter certains produits, notamment les produits de chasse. Les gens amènent des allumettes dans les champs pour brûler les chendons et attraper la goutille et les souris des champs. Ça, c'est un. De deux, les bougies. Il faut éviter les bougies aussi dans les chambres parce qu'il y a le gaz quelque part là-bas. Mm-hmm. Il suffit d'un éraflux de trucs. Baf!
D'une maladresse, d'une imprudence.
Ça, la clé que tu mets dans ton portail, dans les serrures de porte.
Oui.
Il suffit que ça clique. On m'a dit ça, le monsieur m'a dit, c'est ça.
Oui.
Si le gaz est ouvert.
Oui.
Donc il faut faire extrêmement attention en cette période de chaleur parce que la sensibilité est tellement élevée que moins de choses, paf, ça part.
Je me rappelle mon cours de physique en quatrième, en période de chaleur, les gaz se dilatent.
Ah. Donc ça, il faut sensibiliser. Il faut que les Togolais prennent conscience du danger que nous encourons en rentrant dans la période décembre, janvier, février. C'est la période la plus dure, ça. Et les gens prient même qui est l'Harmattan parce qu'il fait trop chaud. Et pour le dernier sujet, je crois fondamentalement que, tu l'as dit, le gouvernement a décidé de faire un blackout total sur la communication par rapport
à la lutte contre le terrorisme.
La lutte contre le terrorisme. Moi, j'ai dit, en tant que journaliste et indépendant, si j'ai les moyens, je peux aller couvrir. Comme certains confrères couvrent toujours en période de guerre. John Choutan en Afghanistan, qui est tombé sous le bas des talibans, et l'autre, et notre consoeur de RFI, qui sont tombés au Mali, tout ça.
Oui. Ceux qui nous font vivre maintenant l'actualité entre Israël et Hamas.
Hamas, absolument. Maintenant, moi je comprends la communication ou la méthode choisie par le gouvernement togolais. Vous savez, et moi-même, je préfère adhérer ça. Vous savez pourquoi? Les terroristes, là, c'est des criminels. Leur problème, ce qui les rend contents, c'est-à-dire que quand on parle d'eux, ils ont tué 100 personnes et ils sont contents. Quand on fait un blackout, là, mais l'essentiel, c'est que le gouvernement puisse au moins coquer et en même temps sensibiliser à travers les ONG, donner l'opportunité aux ONG et de la police et la gendarmerie d'aller dans les zones, sensibiliser les gens. Parce qu'on enrôle des jeunes dans les zones où sévissent, où il y a ces gens-là. Je m'étais d'ethnie, je ne veux même pas aller sur ce terrain. Mais on sait qu'il y a quand même une forte propension d'une certaine tendance qui sont dans ce jeu-là, qui s'emballent dans ce jeu-là. Pour rien du tout, ils s'emballent et ils deviennent un problème, un danger pour leur propre communauté à l'interne.
À ce niveau, il faut juste dire que c'est les jeunes désœuvrés qui n'ont pas d'avenir, qui se retrouvent dans l'incertitude. C'est eux qui constituent une proie facile, un terreau dans lequel les terroristes...
sont prédisposés à ça. Voilà. Et là, je crois que... et quand on annonce les chiffres, ça fait froid au dos. Parce que personne ne sait ce qui se passe là-bas. Tout de go, on vous annonce 140 morts. On vous annonce 30 morts. J'ai dit, ben tiens, il y a des choses qui se passent là-bas. Et pourquoi on ne le dit pas? C'est ce que l'on vient de dire tout à l'heure. Au moins qu'ils trouvent quand même un canal de pouvoir informer de temps en temps, pas de façon très médiatique. Mais moi, j'opte pour, pas le silence, mais pour ne pas faire la publicité gratuite à ces criminels.
Merci. Et l'homme, les trois constantes sécuritaires que nous avons évoquées dans cette partie.
Non, je crois que c'est important parce que justement, quand vous prenez la carte sécuritaire du Togo, dans le nord, vous constatez que on n'est pas sorti de l'auberge. On ne sait pas exactement parce qu'on n'a pas les chiffres actualisés, mais on a quand même eu des informations précises sur la carte sécuritaire actuellement. Et je crois que, comme Ambroise l'a dit, il faut pas aussi faire plaisir aux terroristes parce que c'est des criminels et je crois que c'est un combat national pour nous tous aujourd'hui. Et nous devons tous nous inscrire ensemble dans cette dynamique de lutte contre le terrorisme. Et parce que quand vous allez au nord, ce n'est pas vraiment... je sais pas si vous avez fait quelqu'un s'est hasardé à traverser ou bien à franchir les barrières de les checkpoints en allant à Dapao, c'est pas facile hein. C'est très dur de pouvoir franchir les checkpoints et il y a des checkpoints même où on demande carrément de descendre du véhicule, ils vont fouiller, inspecter tout dans les moindres détails. Et donc ça nous permet aujourd'hui justement nous aussi de pouvoir nous mettre ou d'être aux aguets parce que vous savez cette affaire là c'est partout. Donc je crois quand même qu'on doit collaborer avec nos forces de défense et de sécurité pour que justement nous puissions apporter notre pierre à l'édifice en matière de dénonciation, de sensibilisation et d'exhortation de nos citoyens ou de nos concitoyens pour quand même lutter efficacement contre le terrorisme.
Et Oulo ?
Oui, bon, les uns et les autres ont déjà abondé. Moi, je dirais que le gouvernement fait bien de ne pas trop communiquer dessus, comme Ambroise l'a dit. Ça fera la proie belle aux terroristes, à ces hommes-là, sans foi ni loi, qui ont du plaisir à ce qu'on parle d'eux et qui sont véritablement contents quand on dit qu'ils créent la stupeur, la peur et tout et tout. C'est vrai que le gouvernement est conscient de ce qui se passe là-bas. Même si on ne veut pas leur faire de la publicité, c'est tout de même bien qu'à des moments donnés, qu'on puisse quand même donner quelques informations pour que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe au nord. Vous savez, quand les gens sont à Lomé, ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui est véritablement là-bas, là, que la situation n'est pas aisée. Moi, je vous dis, je tire vraiment fière chandelle et chapeau à nos forces de défense et de sécurité qui veillent au grain. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ces hommes-là créent comme peur, ont comme ambition. Leur ambition, c'est d'atteindre la mer. Et s'ils peuvent créer le désarroi au nord pour que les gens fuient et en faire un terreau fertile, une base pour descendre, ça sera bien pour eux. C'est ce qu'ils ambitionnent. Mais avec la puissance de feu que nos forces de défense et de sécurité ont mis en place au nord, je crois que pour le moment, ils sont tenus en échec, même s'ils arrivent à faire quelques incursions. Et malheureusement, on déplore des victimes civiles, comme du côté des forces de défense et de sécurité togolaises. C'est déjà dit que nous tenons le bon bout. Et moi, véritablement, j'encourage nos forces de défense et de sécurité et tous ceux qui le peuvent d'apporter un appui, même s'il est moral. Quand vous imaginez comment, vous voyez comment au Burkina, les bandes armées ont envahi le territoire. Mais je vous dis, ça fait froid. Vous imaginez un territoire, mais les forces externes accèdent au territoire comme elles veulent, créent de la peur. Et vous voyez avec les vecteurs aériens comment les Burkinabés luttent. Moi, véritablement, je prie que ça n'arrive pas au Togo parce que ça fait vraiment peur. Et je crois que c'est ensemble que nous allons véritablement lutter contre ce phénomène. Et j'invite les uns et les autres à véritablement donner la main d'association aux forces de défense et de sécurité. Parce que ce n'est pas seulement le Kwendial, ce n'est pas seulement la zone de Mandouri. C'est tout le Togo qui est visé. Et je crois que si nous nous mettons ensemble, et chacun dans son coin, sensibilise ses proches, on décourage les gens à adhérer à ces mouvements d'idées barbares, on fera déjà un pas pour lutter contre.
Merci, félicitations à nos amis de Radio Courtoisie qui nous relaient en direct. Hein, Courtoisie qui relaie le club de la presse en direct. Et ce qui fait que nos compatriotes des préfectures de Tône, Saint-Cassé, Kwendjal, Kwendjal-Ouest, et notamment des localités de Sanloaga, de Kwepa-Kanji, de Samnaaba, et même au-delà, nous avons des informations que le club de la presse est écouté par des populations au-delà de nos frontières. Encore la preuve que quand deux petites radios au pluriel se mettent ensemble, nous pouvons couvrir l'intégralité du territoire national, comme nous le faisons. Canal FM à Lomé ici, Radio Lumière à Neho, Radio La Paix à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapaon, et bientôt nous allons pénétrer quelques localités, mais assurons-nous que ce soit effectif avant d'en parler. Voilà le tour que nous faisons sur les conférences sécurité.
J'ai oublié l'aspect état d'urgence. Je crois que l'état d'urgence, à un moment donné, devient important et utile quand il s'agit de chasser les criminels, de les contingenter et de les mettre en un lieu sûr, de les neutraliser. Mais il va falloir contrôler la légalité aussi de cet état d'urgence-là pour que ça ne soit pas dépété ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un contrôle et une limite à un moment donné. Parce que, au-delà de ce qui se passe en termes d'insécurité, il faut aussi. De la même manière, on vient de dire que le gouvernement a bien fait de communiquer de façon parcellaire pour ne pas donner la chance aux terroristes de s'enjailler. Il faut aussi donner l'occasion aux populations qui sont là-bas, de leur donner l'impression que, en fait, ils ont aussi la vie. Ils peuvent vivre.
Oui.
Au-delà de ce qui se fait, ils peuvent vivre quoi. Donc, l'état d'urgence, on peut même pas aller à l'état d'urgence, mais il suffit qu'on essaie quand même de quadriller la zone et de savoir le gérer. Au lieu d'avoir un état d'urgence longue à mettre.
C'est un projet de loi.
Oui, c'est moi, je suis en train de leur donner juste.
On n'a pas encore les données, mais
pour éviter que ça soit un truc qui termine.
Le gouvernement va introduire cet avant-projet de loi devant l'Assemblée. Enfin, je ne sais pas, Assemblée de quel mandat, mais de toute façon, devant l'Assemblée. Et espérons que, par le gouvernement et par les députés, l'opinion soit suffisamment informée. Des articles qui composent ce projet de loi d'état d'urgence et d'état de siège, et puis nous irons de l'avant. Troisième sujet, c'est le retour que les journaux opèrent aujourd'hui sur les suites du rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion fonds Covid de période 2020. Revue de presse rapidement avec Méga Info qui reprend son titre de lundi dernier. Qui dit fonds Covid-19, début des confrontations sur les confusions. Pendant que Ouara le vainqueur lui revient sur le face-à-face inédit entre les acteurs impliqués dans la gestion de ces fonds. Et le journal en ligne Togo Scoop qui écrit gestion scandaleuse du fonds Covid, le gouvernement pris en flagrant délit de mensonges d'État. Alors, Togo Scoop révèle que, à la publication de ce fameux rapport de la Cour des comptes, il avait été dit que c'est le gouvernement qui avait commandité le rapport. Et Togo Scoop lui relève que, contrairement à ce qui avait été dit, c'est plutôt les donateurs, les prêteurs et les partenaires financiers, comme le Fonds africain de développement et la Banque africaine de développement, que sont les partenaires qui ont demandé et exigé ce rapport d'audit. C'est ce qui fait que, malgré les tentatives des uns des autres, on n'arrive pas à enterrer le rapport et qu'il suit son cours jusqu'à la confrontation dernièrement devant l'Assemblée. Et l'homme ?
Bon, vous savez, ce à quoi on a assisté la dernière fois à l'Assemblée nationale, je pense quand même que c'est important dans la mesure où ça permet d'écouter toutes les parties. Toutes les parties qui ont eu à manipuler ces fonds. Bon, la Cour des comptes, malheureusement, n'était pas au cœur de la gestion, mais doit rendre compte de l'utilisation qui a été faite de ces fonds-là. Donc, la dernière fois, on avait quand même constaté qu'il y avait beaucoup de les gens ont mis un peu de passion, et puis il y avait quand même un débat contradictoire entre les deux parties. Sauf qu'on est resté sur notre soif. Parce que à la fin, la présidente de la commission a dit qu'ils vont envoyer un rapport.
De la mission d'information.
De la mission d'information,
Madame Lekezim Balouki
a dit qu'ils vont faire un rapport de la séance de ce jour pour pouvoir rendre compte à qui de droit par rapport au mandat de la mission d'information. Parce que la dernière fois, vous savez, quand par exemple la Cour des comptes dit avoir écrit à des institutions de la République qui répondent 8 mois après, vous comprenez, ça voudra dire ce que ça voudra dire. Vous comprenez, si dans un pays, une institution de la République a eu une intention de la République, qui plus un ministère, en janvier, et la réponse ne sort qu'en 8 mois après, c'est-à-dire autour d'août, on vous écrit en janvier et c'est en août qu'on vous répond. À la limite, j'ai l'impression, parce que la dernière fois, on a clairement l'impression que le gouvernement n'a pas pris au sérieux le travail de la Cour des comptes. Et ça, il faut qu'on le dise. Le gouvernement n'a véritablement pas pris au sérieux le travail de la Cour des comptes. Parce que longtemps aussi, la Cour des comptes ne s'est pas imposée. Ou ne s'est pas imposée plutôt. Vous voyez, la Cour des comptes, beaucoup ne connaissent pas sa mission, par exemple. Ils sont restés longtemps sans se rendre visibles. On ne sait pas véritablement ce que fait une Cour des comptes dans un pays. Au Togo, par exemple, les gens n'avaient pas véritablement écho de la Cour des comptes comme ils l'avaient eu la dernière fois.
Un peu à contrario, je peux nuancer un peu. La Cour des comptes publie quand même régulièrement ses rapports, sauf que c'était sur son site. Et je me rappelle, au Club de la Presse, il y a eu à traiter quelques...
Oui, les lois de règlement, oui.
Les journaux comme Liberté,
oui,
comme l'Union.
Effectivement.
Mais c'est vrai que les rapports de la Cour des comptes ne tombaient pas dans le grand public.
Oui, en fait, c'est ça la communication publique. C'est une institution de la République, la Cour des comptes. Et donc, il faut davantage de... Quand on publie un rapport, vous mettez sur votre site web, il faut communiquer autour. Mais parce qu'aujourd'hui, la Cour des comptes est là. Mais par exemple, nous on sait ce qu'on appelle une loi de règlement après un exercice budgétaire. Mais quand vous publiez une loi de règlement sur votre site web, il faut venir expliquer la loi de règlement. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Quelle est la procédure de la Cour des comptes qui permet de pouvoir élaborer une loi de règlement? Et quelles sont les conséquences ou bien quelle sera la suite de cette loi de règlement? Il faut qu'on sache. Parce qu'il y a des lois de règlement qui ont été publiées qui relèvent des incohérences aussi dans l'exécution du budget de l'État. Et donc, mais tout ça, les gens n'en savaient absolument rien.
Ce que tu dis là, ça nous ramène à un ministère, je ne sais pas s'il est toujours là, c'est le ministère de la formation, la citoyenneté. Nous souffrons de beaucoup de civisme.
Oui.
Hein?
Oui.
Formation citoyenne ici, formation civique ici. Je crois depuis la ministre Anaté Koumeyalo,
oui,
ce ministère a été créé. Oui. Maintenant, tant c'était le ministre Trimois qui le gère.
Oui.
Mais nous faisons le constat que le Togo a besoin d'une véritable formation civique et à la citoyenneté. Pour qu'on sache quelles sont les institutions qui nous régissent, comment elles fonctionnent,
quelles sont leurs missions, oui,
et nos obligations également les uns à l'endroit des autres.
Et oui, mais si par exemple on révèle lors de cette confrontation qu'une institution a écrit à une autre institution de la République, et oui, c'est 8 mois après qu'elle a une réponse, ça pose un problème de civisme, de citoyenneté aussi.
Oui.
Oui, t'as qu'on est juste à notre
nous
niveau.
Nous sommes vraiment
dans
un terrain vert.
Parce que c'est l'administration publique. Mais si ça se passe comme ça, nous, on n'a pas à se plaindre d'un courrier qu'on dépose à des ministères, on ne nous répond pas. Hein. Parce que ce que nous avons entendu la dernière fois là-bas, là, ça, on tombait des nues. Et puis quand, par exemple, la Cour des comptes dit qu'il y a des factures qu'elle ne découvre que maintenant dans la salle séance tenante, il y a un problème. Parce que c'est pourquoi je dis que le gouvernement n'a pas pris au sérieux le travail de la Cour des comptes. On vous envoie un courrier. On demande à des ministères de justifier les dépenses. Même si des ministres sont entrés en fonction après Covid. C'est-à-dire que, par exemple, quand Covid a commencé, il y avait des ministres. Et puis après, il y a eu peut-être un autre gouvernement. D'autres sont entrés en fonction ou d'autres ont changé de portefeuille. Mais répondez quand même. La bienséance et la courtoisie administrative voudraient que vous répondiez à un courrier qu'on vous a envoyé. Donc, quand vous répondez dans les délais et que vous envoyez le justificatif, vous déposez ça sur la table. C'est pourquoi je dis que à un moment donné, la Cour des comptes même ne s'est pas imposée dans l'univers de l'institution de la République. Et je crois que ce rapport révèle véritablement la force d'une Cour des comptes dans un pays. Et aujourd'hui, les gens ne vont pas se mettre à dire que bon, vous avez publié le rapport sur les réseaux sociaux avant de nous l'envoyer. Parce qu'il y a aussi ce débat que la Cour a mis sur le rapport sur son site avant de pouvoir envoyer son ministère. La Cour des comptes n'a publié son rapport que sur son site web.
Oui, oui.
Pas sur les réseaux, mais sur son site web. Mais là, si quelqu'un téléchargeait, mais sur les réseaux sociaux, c'est sans problème. Mais c'est là où aussi on demande à la Cour des comptes à part le site web, d'expliquer au fait aussi ces rapports. Parce qu'on ne va pas seulement mettre le truc sur un site web. Si vous, par exemple, le citoyen ne connaît pas l'adresse web de la Cour des comptes, il fait comment pour pouvoir télécharger?
Merci. Bon, donc, voilà. La question demeure, et comme l'écrit Togoscoop, c'est nos partenaires qui ont demandé le rapport d'audit de la Cour des comptes, et apparemment, selon Togoscoop, ces partenaires sont déterminés à ce qu'une suite soit donnée au rapport. Ça veut dire, Wolo, que cette affaire est loin d'être enterrée pour le moment.
Elle ne peut pas s'enterrer. Ça, tu sais, on nous a dit dans ce pays que nous avons mal lu le rapport. Que nous on a mal lu. Ah, nous, on s'est tu. On s'est dit, bon, comme les gens ont travaillé.
On nous a même menacé. Hein.
Comme les gens ont travaillé et se sont félicités. Bon, nous, on a pris acte. Mais c'est un beau jour qu'on nous a encore dit que on veut faire la lumière sur ce qui a été fait.
Si ce qu'on a mal lu, il faut préciser, voilà.
On a encore pris acte.
Non, nous, on n'a pas été à l'école.
On a pris acte. Et ce qui s'est passé la dernière fois, moi j'ai dit, ça prouve qu'il y a un véritable problème dans notre pays. Parce que vous voyez toujours, j'ai vu comment les gens se sont mis à couteau tiré sur certaines propositions, oui, sur oui, certains
oui.
mots.
Oui.
C'est dire qu'il y a véritablement une incompréhension et dire qu'il y a des lacunes dans le rendu de ce que les ministères devaient faire, tous ceux qui ont géré l'argent du Covid dans ce temps-là. Et moi, je dis que c'est un précédent fâcheux. Parce que...
Très fâcheux.
On ne peut pas banaliser un rapport de cette ampleur. Et comme Togoscoop le dit, c'est fort à parier que les partenaires sont derrière. Parce que dans la salle, ils étaient là. Ils étaient là. Et c'est que les gens veulent comprendre comment est-ce que les fonds ont été gérés. Et... l'anachronisme, je vais dire, les cons qu'en jambes auxquels on a eu à assister, c'est la preuve que les choses n'ont pas été faites vraiment selon les règles de l'art. Et il y a un problème quelque part. Je crois que véritablement, il faut que nos ministères, tous ceux qui gèrent les données publiques, aillent vers la reddition des comptes et que véritablement, le 1 franc qui est investi pour le bien commun, les gens puissent le gérer et rendre compte fidèlement. Et je crois qu'avec ce rapport, les gens sont mis à nu. Les gens ne vont plus continuer par les mêmes pratiques si véritablement chacun fait sa part des choses. Et je tiens à rappeler que la Cour des comptes est une institution de conseil. Elle n'a pas vocation à être répressive. Elle analyse et elle rend compte.
Voilà.
Maintenant, quitte aux autres institutions dans un pays normal
d'en tirer les conclusions.
Et de faire le travail.
Merci. Le confrère, le tonnerre aussi revient sur le sujet avec l'audition, la conférence de la dernière fois. Hein, un goût d'inachevé, 3 points de suspension. Ça veut dire, Ambroise, que le feuilleton continue.
Malheureusement, le feuilleton continue. Et moi, je me dis, tout ça, c'est tout un cinéma. Hein, qu'il a sorti un mot concanjambe. Il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser pour caricaturer. D'abord, je félicite la Cour des comptes parmi les institutions pour la ténacité et la véracité de ce qui arrive à son niveau en termes d'audit d'inspection qu'il arrive à publier sur son compte. Et je me dis qu'on ne peut pas publier un rapport si Fonya Singbe ne l'a pas lu. Je crois que le rapport qui avait été publié au départ... Sûrement que le rapport a été vu par le chef de l'État. Et c'est la règle, je crois.
Tous les acteurs reçoivent le rapport avant.
Et si la Cour des comptes publie ce rapport, et ça veut dire qu'il y a eu plusieurs investigations, il y a eu plusieurs pièces à conviction qui ont été demandées, il y a eu plusieurs contacts, plusieurs inspections, avant que ce rapport ne soit finalisé et envoyé à la présidence pour que le chef de l'État donne son OK avant que cela ne soit publié. Patatras, on me dit que l'Assemblée nationale, on convoque les ministres, certains ministres restent même réticents, et ces ministres, non seulement ils restent résistants, ils leur sont difficiles de donner les preuves de ceux dont on les accuse. Maintenant, on nous a menacé de nous taire parce que nous, on ne comprend rien de ce rapport et comme quoi on devait nous taire, d'accord. Mais moi, je leur ai promis que je ne me tairai pas.
Et nous ne sommes pas tus.
Jamais. Ah, okay. Ils se trompent. Ils se trompent gardement, parce que vous gérez les données publiques. Vous voulez que nous, journalistes, on se taise ? Non, 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 non. Et maintenant, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont revenues. Non, 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 non. Il semble que vous avez mal géré vos trucs là. Retournez à l'Assemblée. Mais ils n'ont qu'à aller à la justice. C'est la justice qui doit régler ce problème en dernier ressort. On va voir qui a acheté tel montant de riz, tel montant. Le montant de Covid, essentiellement de Covid, les gens sont allés construire des bâtiments, des magasins. Les gens sont allés acheter même des logos. Non, non, non. C'est-à-dire que il faut que tous ces messieurs-là démissionnent. Que tout le gouvernement démissionne ce matin et que Fonya Singbe lui-même démissionne. Je suis sérieux.
Parce que c'est lui qui a mal coordonné tout ça là. On ne peut pas avoir un chef d'État dans un pays et que vous me dites, moi, journaliste, de me taire, alors que les gens mal gérés, pas de pièces à commission, pas de factures proforma, rien de tout ça. Et les gens sont contents même. Allez, ils sont allés à l'Assemblée, ils disent que, franchement, et c'est le ministre, là, comment on l'appelle, Saliaya, qui patauge dans toutes les eaux, Mississippi, Zion, tout ça là, pour prouver qu'il est encore, il est là pour défendre. Ambroise, je suis désolé. Je suis vraiment désolé.
Juste expliquer ce que nous devons, c'est l'hydrographie du pays.
C'est toute la clarté dans ce rapport. Le processus sur son coup. Laissons le temps à Madame Lekezim et à son équipe de finaliser leur rapport. Et puis nous verrons quelle suite l'Assemblée va donner à ce rapport en plénière. Et comme les partenaires suivent avec vigilance, tout ce que nous demandons, c'est que toutes les bonnes conclusions soient tirées du rapport et que cela nous serve de leçon pour la gestion des fonds publics à l'avenir.
Oui, c'est important. Je crois quand même que pour finir, je crois que nous on ne réclame que la transparence et constitue les responsabilités. Parce que il s'agit, nous tous, on a fait les tests Covid, on a payé les bavettes, on a beaucoup, c'est-à-dire que tout ce qu'il y avait autant de Covid là, on doit payer, on doit faire ceci, mais les gens payaient, tout le monde payait, tous les citoyens payaient à chacun son niveau. Mais maintenant, quand il s'agit du principe de la reddition des comptes, il faut le faire et que les responsabilités soient situées. C'est tout ce qu'on demande parce que, justement, voilà des confrères qui ont écrit sur les réseaux sociaux, ils se retrouvent en prison. Mais depuis la CAN 2013, où le rapport établit qu'il y a eu malversation, mais personne n'a...
Rapport établi par la APLUSIA.
Effectivement, mais la APLUSIA dépose son rapport, silence radio. CAN 2017. Les malversations, c'est dans le rapport. On dépose silence radio. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont succédées.
Mais en plus, il y a également déposé son rapport sur l'emblématique route Lomé-Voga-Amphoin.
Silence radio. Voilà le rapport Covid 2019 avec les irrégularités. Silence radio. Mais quand un journaliste écrit tout à l'heure sur son compte Twitter ou X plutôt, ou bien sur Facebook, qu'il y a ceci, Vladimir, même on peut commencer à négocier les choses, écrire les choses, on dit lundi, on le prend. Bon, vous voyez ça? Vous voyez ce deux points. Quel est maintenant alors le rôle du journaliste dans la cité? Nous, on doit faire notre travail de façon professionnelle. Ça, tout le monde est d'accord. On respecte les règles d'éthique et de déontologie. Oui. Mais maintenant, si nous ne faisons pas véritablement notre travail, si on ne révèle pas des choses comme ça pour que tout le monde puisse prendre ses responsabilités, quel est finalement notre rôle? On va seulement faire la communication? On va être le porte-parole? Non, mais tout le monde, chacun doit faire son travail de façon professionnelle, y compris nous, en tant que journalistes, y compris ceux qui doivent le faire de façon professionnelle, parce que nous tous, on a quand même une éthique et une déontologie à respecter.
Dans cette ambiance paraître grise par endroits, Lomé reste une ville d'hospitalité, le Togo, un pays qui reste ouvert pour accueillir les compétitions, dans la zone 3. De l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique, que nous allons accueillir. 7 pays qui viendront s'ajouter à nous. C'est les Jeux de la zone 3 de Lac Noah. Ouara, les vainqueurs, nous en parlent. Lomé, une destination de paix, de solidarité, où l'olympisme va bouger. C'est la première fois que nous allons accueillir une telle compétition. Je le disais, pas moins de 600 athlètes et officiels qui sont attendus. La Nouvelle Tribune écrit également « Jeux de zone 3 de Lac Noir, Lomé, prêt pour écrire l'histoire ». Et il y a l'organisation, mais il y a également l'ambition sportive. Quand le CNO Togo ambitionne d'engranger le maximum de médailles lors de ces Jeux-là qui vont s'ouvrir du 3 au 10 décembre prochain, et là,
oui, justement, Lomé abrite pour la première fois de son histoire les Jeux de zone 3 de Lac Noah. Il faut rappeler que la zone 3 de Lac Noah regroupe 8 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Niger, le Nigeria et le Togo. Et donc ces 8 pays vont se retrouver à Lomé du 3 au 10 décembre pour parler olympisme, c'est-à-dire pour disputer une compétition qui va regrouper 3 disciplines, donc le volleyball, le handball et le basketball 3x3. Et donc dans ces 3 disciplines, justement, il y a plus de 600 athlètes et officiels qui sont attendus. Donc ça voudra dire que c'est une organisation pas des moindres, et le comité d'organisation l'opposition est en train de peaufiner les derniers réglages pour pouvoir permettre à ce que la fête soit belle. Et durant cette compétition, il faut le dire, il y aura d'autres disciplines en démonstration, dont le tir à l'arc, le tech-ball et le breakdance qui est admis, nouvellement admis aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir inviter l'ensemble du public sportif parce que souvent, on est là pour le foot. On est là pour d'autres compétitions, mais on n'est jamais là pour les sports de main. Alors que le Togo a un vivier de talents dans ce qui concerne les sports de main. Donc, il va falloir qu'on puisse venir les encourager. Tout va se dérouler justement sur le terrain de l'Université de Lomé.
Merci beaucoup. Le dimanche, le 3, c'est à partir du dimanche.
C'est à partir du dimanche, mais la compétition démarre véritablement lundi.
Merci. Il est midi. Vous nous avez écoutés jusqu'à présent. Nous vous en remercions. Nous allons souffler un peu, faire reposer un peu nos cordes vocales pendant que vous apprêtez à composer nos deux numéros, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. Vous pouvez revenir par vos questions, vos commentaires sur l'un ou l'autre sujet dont nous avons débattu. 93.5. Eh bien, nous nous branchons sur vous pour écouter vos questions, vos commentaires. Liberté totale, nous pourrions juste de vous en limiter aux questions, aux sujets que nous avons discutés. Premier auditeur, bonjour. Allô? Allô, l'ami en ligne? Ok, je rappelle. Ok, le premier qui s'annonce. Bonjour.
Allô, bonjour, Seth.
Oui.
Monsieur Gado.
Monsieur Gado, nous vous écoutons.
Seth, franchement, c'est un macho. Je vous en prie. Il faut avoir un docteur à côté de vous. La façon dont mon ami Ambroise s'est passé, vous savez, tout ça a baissé. Bon, vous savez, monsieur Ambroise, je vais poser une question. Est-ce que dans ce pays-là, vous avez eu entendu un petit directeur du société d'État démissionné, et vous parlez de ministre démissionné, le président démissionné, mais c'est des PNGV, si vous ne quittez pas, va vous écraser. Donc le pays est comme ça. Donc demandez, tous les dossiers classés, est-ce qu'Apricia-Pricia fait quelque chose? Notre ami Yao, il est parti pour rien. Celui qui l'a remplacé, il est là pour rien. Donc, mon cher ami Sass, vous savez ce que vous allez faire, je vous en prie, il faut tout à coup éviter Ouya. On va lui poser des questions. Merci, bonne journée.
Invitez le président, l'ancien président libérien George Weah pour qu'il vienne partager son expérience avec nous. Pourquoi pas? Deuxième auditeur, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est Yao Dagoué, j'appelle Dagoué.
Vous appelez Dagoué?
Oui.
Ok, nous écoutons.
Juste pour vous dire quand même.
Oui.
Il y a le sujet concernant le terrorisme. Là.
Oui.
À chaque fois que vous débattez en disant que les terroristes veulent se venir à la côte, c'est un faux débat. C'est ceux-là qui les ont mandatés qui disent ça. Ce n'est pas, ils ne viennent pas à la côte pour faire pour chercher quoi. Quand ils sont venus au Sahel, c'était pour faire quoi. Et aujourd'hui, on va dire qu'ils viennent à la côte. Ceux-là qui les ont mandatés, là, c'est une mission qu'ils les ont assignée en disant qu'ils viennent à la côte. En disant que quand vous voulez venir à la côte, comme ça, on va, le gouvernement va leur assurer leur état de venir créer des bases pour les repousser. C'est leur intention. Si ce n'est pas pour venir à la coupe, c'est juste pas compris.
Merci. Mais au Conseil des ministres, samedi dernier, si on retourne au communiqué, on verrait que le gouvernement même dit un peu la même chose. C'est pourquoi il faut faire barrage pour que les gens ne débordent jamais. Et souhaiter vivement que les pays voisins arrivent à les éradiquer totalement de leur territoire. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui.
Allô. Oui.
Oui. Ok, bon, je vais parler là.
Nous ne vous recevons pas bien.
Oui. Je vais parler de la Cour des comptes.
Oui.
Le gouvernement de la famille. Bon, je pense que c'est à l'heure que le régime de Fonia.
Non, excusez-moi, m'appeler. Nous n'arrivons pas à bien vous écouter. C'est vraiment désagréable pour nous-mêmes, les auditeurs. Le suivant, bonjour.
Allô, oui, Sass, bonjour.
Oui, Didier.
Oui, bonjour, plateau.
Oui.
Je vous félicite beaucoup, tout le monde aujourd'hui. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Il faut bien qu'on sorte de cœur avec les militaires, ceux qui sont au nord. Mm-hmm. Mais il ne faut pas que le gouvernement se profite de la crise sécuritaire du pays pour nous faire des lois uniques. faut que la gestion de cette crise soit transparente pour que nous puissions la supporter. Vous savez comment cette dictature la vit. Ils peuvent profiter de cette crise pour renforcer encore leur dictature. Mais pour revenir à la Cour des comptes, mais moi, je trouve que, comme l'a dit Ambroise, que tout cela, c'est du cinéma. Mais néanmoins, je tiens à féliciter la Cour quand même. Mais ma question demeure, est-ce que c'est normal que la Cour des comptes, étant une institution de l'État, on l'amène au même titre que le gouvernement à une confrontation? Les juristes n'ont qu'à, comme ils sont là, ils n'ont qu'à nous éclaircir. Mais je voulais profiter de ce que vous dites. Vous savez pourquoi je dis que c'est du cinéma? Nous sommes dans la commission, c'est présidée par Mme Leguesi, que son nom même est cité dans le scandale de pétrole, qu'il a reçu des chèques, que jusqu'à présent, on ne nous a même pas dit que ces chèques-là ont servi à quoi. On a fait des photocopies des chèques que lui-même il a encaissé. Jusqu'à présent, on ne nous a pas dit, mais on met la même dame-là à la tête de cette institution. Vous voyez comment les gens blaguent à faire ce pays. Et pour en finir, tout ce que nous venons de dire là, et le peuple dans son coin, avec tout ça, le peuple ne réagit pas. C'est quel peuple nous sommes au Togo? C'est ça mon inquiétude. Merci, ça.
Je vous en prie. C'est vrai que le nom de Mme Lexim avait été mentionné dans le Petrol Gate, mais une affaire qui n'a pas prospéré davantage, mais elle se trouve à la tête de la mission d'information du rapport de COVID. Hein, chaque chose en son temps, n'est-ce pas? L'auditeur suivant, bonjour. Oui. Pardon?
Basile.
Oui.
Je salue les invités aussi.
Diminuez le volume de votre poste récepteur parce que c'est très désagréable ce qui nous
permet. Oui, je vois ça.
Ok. Oui, allez-y rapidement, s'il vous plaît.
Je dis, votre collègue qui dit que le problème des fichiers là est déjà réglé, c'est sur quel rapport lui se base? Ou bien il est avec l'OIF et le gouvernement et la CENI. Je ne comprends pas.
Vous avez écouté le conseil des ministres samedi, ce que le gouvernement même a dit sur le fichier électoral?
Non, moi je n'écoute rien, tout vous ici.
S'il vous plaît, le bon citoyen, l'ami, le bon citoyen doit d'abord écouter l'information officielle avant de contester au besoin. Si vous n'écoutez pas le communiqué du conseil des ministres, alors que c'est le gouvernement qui est aux affaires, c'est pas nous les journalistes, c'est pas nous qui gouvernons le pays. Hein.
Ah, mais moi, je sais que l'OIF est venu faire quelque chose.
Oui, beaucoup de choses ont été dites sur la mission de l'OIF. Je pense qu'à ce jour, en nous appuyant sur le conseil des ministres du samedi, la question du fichier est réglée. C'est pourquoi le gouvernement demande qu'on aille aux élections d'ici premier trimestre 2024. L'auditeur suivant, bonjour. Ok. Oui, Ambroise, je citais quand même les invités. Hein. Même si on n'aime pas le gouvernement, il faut quand même suivre ce qu'ils font avant de les contester au besoin.
Oui, ça, ce que tu dis, c'est la vérité. Sauf que quand le gouvernement aussi fait ses conseils de ministre, tout ça là, les gens voient que rien ne change. Que voulez-vous que les gens disent?
Oui,
c'est-à-dire que les gens ont raison, hein. Et parce que tu as raison de dire ça, parce qu'il faut relayer. Mais on relaie, on ne trouve rien. Les gens ont faim. Si le gouvernement décide de distribuer 50 000 gens, vous allez voir que tout le monde va chercher Togo Press ou sur les journaux.
C'est ça, Ambroise. Ok, l'auditeur qui est en ligne, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Allô.
Bonjour.
Oui, bonjour à vous. Monsieur Asiangbon.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Monsieur Kofi.
Ok, Monsieur Kofi, alors qu'on annonçait Monsieur Asiangbon. Ok, allez-y, Monsieur Kofi.
Oui. Toujours par rapport au fichier électoral.
Oui.
Sur ce point, je crois que les citoyens togolais ne vont jamais s'aligner sur la position du gouvernement. Puisque nous avons vécu nous-mêmes ce qui s'est passé sur le terrain lors des opérations du recensement.
Oui.
Il y a plein de citoyens qui n'ont pas pu obtenir leur cash.
Oui.
C'est parce qu'ils n'ont pas la volonté. C'est pas parce qu'ils ne sont
pas déplacés. Ça, nous en avons débattu pendant des heures, même ici au club de la presse. Mais à présent, qu'est-ce que vous proposez? Puisque le gouvernement prend acte de la certification du fichier par l'OIF.
Oui, en tant que citoyen, nous demandons à la CENI de reprendre ce travail.
Ok.
Mais s'il ne faut pas faire tout là, il faut faire une révision permettant aux autres de s'inscrire.
Okay.
C'est leur droit.
Donc vous demandez que la CENI permette que ceux qui sont restés sur le carreau puissent se faire enrôler.
c'est ça.
Voilà une proposition vraiment bien formulée. Maintenant, nous verrons la suite que la CENI va lui réserver. Le suivant en ligne, bonjour. Monsieur Assiangbo.
Oui, bonjour.
Bonjour à vous.
Salut le plateau.
Nous vous saluons en retour.
Je ne comprends pas. Comment est-ce que dans un pays normal, une institution de la République a un rapport et ça fait polémique? Je ne comprends pas. Si vous pouvez m'expliquer. Cette préoccupation, je vous invite tous les journalistes sur le plateau à télécharger la rencontre que M. Talon a faite au Bénin avec ses opposants et venez mettre ça à la ruine au Togo pour nous servir de leçon. Vraiment, le Togo est à la traîne. Merci, bonne émission.
Je vous en prie, nous sommes très honorés, mais ne nous demandez pas plus que nous, journalistes, nous pouvons faire. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui, c'est monsieur?
Monsieur Sylvain Kabe de Dapon.
Ah, depuis Dapon?
Oui.
Le tiel est?
Le mana.
Eh bien, nous écoutons.
Oui, vous savez, dans tout ce que nous disons, hein.
Oui.
Lorsque la corruption, l'impunité ou tout ça là gagne toujours le terrain dans ce Togo, rien ne pourra marcher.
Mm-hmm.
Parce que c'est une seule personne. Toutes ces institutions réunies constituent une seule personne. Que ce soit la Prussia, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit le gouvernement, que ce soit l'Assemblée nationale, c'est toujours les mêmes personnes. Personne n'aimerait jamais prendre le couteau se poignarder.
Mm-hmm.
Donc, il n'y a pas de solution envisageable dans tous ces problèmes-là qui tournent autour de ce pays. Sauf si le gouvernement vraiment se retient et qu'il vraiment il mette en œuvre toutes les dispositions qui sont prises pour contrecarrer la corruption et autres infractions assimilées.
Oui.
Sinon, dans le cas contraire, c'est la même chose. On ne fera pas le sur place.
Mais monsieur Sylvain,
oui.
C'est le gouvernement qui prône la bonne gouvernance au jour le jour. C'est le gouvernement qui a créé la Prussia. C'est le gouvernement qui met les institutions en place. Alors pourquoi le gouvernement n'arrive pas à faire comme il dit?
Oui, c'est ce gouvernement même qui s'auto-détruit. Parce que c'est lui qui met ses responsables-là en place et qui n'arrive pas à les gérer ou bien à les sanctionner lorsqu'ils sont en infraction. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous voulez?
Mm-hmm.
Mais c'est ça, c'est le même gouvernement. Ça, c'est la mauvaise gestion dont nous parlons chaque fois. Mm-hmm. Et manque de rigueur, parce que c'est lui qui a mis telle personne à telle place, il a maintenant horreur de le sanctionner.
Mm-hmm.
Mais vous voyez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut rien. Nous, citoyens, simple, vous, les journalistes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour résoudre tel ou tel problème?
Nous pouvons vous beaucoup, M. Sylvain.
Vous ne pouvez pas communiquer,
oui.
Mais ça ne changera rien.
Et c'est déjà beaucoup, M. Sylvain. Déjà, le
oui,
fait que nous,
vous.
Les journalistes, nous animions des émissions, que vous participiez avec nous, ça participe à la façon de faire les choses.
Vraiment, je vous félicite, je vous jette des fleurs, mais seulement vos effets seront toujours vains.
Merci beaucoup.
Oui, bonne journée.
Vivement que les événements à venir démentent ce pessimisme quelque peu ambiant quand même dans le pays. L'auditeur suivant, bonjour, et c'est le dernier aujourd'hui, bonjour.
Oui.
Oui.
C'est Pelé. Hein.
Pelé, ok. J'espère que maintenant la communication sera bonne.
Ah, ouais, c'est vrai. Parce que tout le fichier, il me sera. Voilà, le IEPR, il me fait. Si nous voyons, il y a eu des temps avec il y a eu des liens. Avec le gouvernement, il y a fait le il a donné ok à son position de faire une outil. Vous voyez, ça c'est ça qu'on appelle le patriotisme, c'est de son pays. Vous voyez déjà, le leader déjà fait. Malgré ça là, il donne l'eau que si l'opposition même n'a pas d'argent, le gouvernement va financer ça. Il a fait. C'est ça qu'on demande à la fond de la société du fait. Il y a des deux, ce que je voudrais dire pour la Cour des comptes, ces machins. Je voudrais voir dire que aujourd'hui, depuis 60 ans, le système national a mal gouverné le pays. Dès à présent, on n'a plus un instant fait sous possibilité que ces gens de la Cour des comptes rentrent dans l'histoire du pays. Ils ont fait une fois pendant 60 ans, ils ont posé un geste. La famille nationale a posé un geste. Merci.
Je vous en prie, l'ami Pelé, juste rappeler que sur le dernier le sujet sur le fichier électoral, c'est parce que le parti, les démocrates, a demandé à aller rencontrer le président Talon et le président Talon a accepté, les a reçus et ils ont discuté. Et nous en parlons maintenant. Alors, ça c'est le Bénin. Ici au Togo, comment est-ce que nous faisons les choses? Tour de table pour conclure cette émission. Jean Houlot.
Oui, moi je dis que ce soit sur la question du Covid, la reddition des comptes, que ce soit au niveau des élections législatives et régionales, comme la pensée du jour le dit, quand quelqu'un vous réclame sa dette, il n'est pas méchant.
Non, non, ceux qui réclament leur argent, ils ne sont pas mauvais.
Voilà.
C'est nous qui devons payer nos dettes.
Voilà. C'est pour dire qu'en fait, pour faire un parallèle avec ça, vous avez écouté les uns les autres. Ce que les gens réclament, c'est que les choses soient bien faites et c'est leur droit. Parce que quand on dit qu'on a géré l'argent du Covid, c'est le dernier public, c'est l'argent de tous les Togolais. Et quand on parle des élections, c'est tous les Togolais qui sont concernés. Ce n'est pas quelques personnes regroupées dans une tour d'ivoire qui vont faire ce qu'ils veulent et l'imposer aux autres. Ce que les gens réclament, c'est le minimum qu'on leur doit. Et je crois que nos dirigeants doivent écouter cela. Écouter, je ne sais pas s'ils écoutent véritablement tout ce qui se dit au niveau de ces émissions que nous faisons. Parce que nous prenons également le pouls du peuple que nous leur donnons. Je crois que s'ils écoutent ça, ils tireront les leçons qui s'imposent. Je ne sais pas si on va au carton directement. Si. Je n'ai pas de carton particulier, mais c'est juste pour envoyer un coucou à plusieurs personnes qui suivent véritablement le Club de la Presse, notamment Gauthier Azuma, depuis le Bénin, il nous suit avec Radio Gameli. Nous avons Kossi Keleu, un ancien combattant, Lugoutir Mouni Michel, un cadre de banque à l'UTBA Lomé ici. Et depuis Dapaon, nous avons Abdoulaye Kam, Jules Sambiani, Happy Sojolo, Sorrento Bagula, qui sont les techniciens qui font la magie pour que la population des savanes puisse écouter en direct, je le précise, le Club de la Presse tous les jours. Et je terminerai en saluant M. Kwacha, qui est la direction de la culture dans la région des savanes.
Merci, merci beaucoup. À ceux-là, on peut ajouter également les nombreux internautes, hein, notamment notre ami Ousseni Bello, qui nous suit en direct depuis la France, hein, où il réagit même avec nous à temps réel. Ambroise?
Oui, moi je reviens sur la question de la solidarité entre Togolais en cette période du mois de décembre. Et il faut que ça se fasse tout le temps. Je l'ai dit, ne serait-ce que 1000 francs, 2000, 500 francs. Je ne dis pas pour que les gens envahissent ma maison parce que j'ai dit ceci.
Non, tu as commencé.
Donc, il faut que les gens, même au sein des familles, il y a des problèmes. Chaque famille a une histoire. Hein. Chaque famille a son histoire au point que même des enfants de même père ne s'entendent pas aujourd'hui. Que cette solidarité puisse gagner ces familles et des familles collatérales pour que ça se sente financièrement du côté de chacun. Ne serait-ce que si c'est 1000 francs vous donner, peut acheter deux bols de maïs ou un bol de maïs ou de gari, ça va, ce serait de la joie dans une famille quelque part très pauvre. Donc j'insiste sur ça. Mon carton, je crois que j'envoie un carton de consolation, d'encouragement à nos deux confrères, Anani Sossou et Loïc Lawson. Je leur envoie du courage que même si le pardon, celui qui doit concéder le pardon, c'est celui qui est offensé, ils n'ont qu'à voir l'eau et la farine du maïs pour pouvoir sortir de ce carcan, parce que c'est un carcan. Merci.
Je t'en prie, Ambroise. Et l'homme aussi.
Je n'ai pas de carton aujourd'hui. Je vais juste faire un coucou à Rams Tizan et depuis Toti. Et souhaiter un prompt rétablissement à tous ceux et à toutes celles qui se retrouvent sur un lit d'hôpital en ce moment. Bonne guérison à vous et bon appétit à toutes et à tous.
Merci. Ambroise, ce que tu as dit par deux, trois fois sur la solidarité me rappelle que le cas de cet auditeur non-voyant, hein, il a élaboré un projet de fabrication de savon liquide autour de 600 000 francs CFA. Hein, hier encore, il était venu pour m'en parler. Alors, je l'annonce comme ça. C'est un non-voyant, mais qui veut se rendre autonome avec ce projet dont la mise en place va coûter autour de 600 000 francs CFA. Si quelqu'un écoute ça et que ça touche son cœur, merci de prendre contact avec nous à Canal FM. Nous le mettrons en contact avec le concerné. Vivement que ce soit un cadeau de fin d'année que nous puissions lui faire. Eh bien, c'est fini aujourd'hui. Je vous remercie pour votre disponibilité, mais je remercie encore beaucoup plus les auditeurs. Ils sont très nombreux de par le monde entier à nous écouter. et à nous apprécier, à nous critiquer aussi et à co-animer avec nous. C'est comme ça que nous ferons les choses. Et puis demain, Michel me demande de vous donner rendez-vous dans la localité d'Afito. C'est un petit village, un hameau perdu dans la préfecture de Yoto, dans un concert de lac qui abrite, entre autres animaux, des hippopotames. C'est Afito qui va accueillir le club de la presse demain, qui va redevenir Radio du Littoral. Soyez en contact avec nous et vous verrez comment nous animons le club de la presse en bonne compagnie avec les hippopotames. Si vous croyez que je mens, suivez-nous demain à Afito et vous irez vivre vous-même.